Deuxième partie. 1. Une description de l'île de Nouménor. Bien que le texte soit d'ordre plus descriptif que narratif, j'ai inclus une sélection des écrits de mon père sur Nouménor, et plus particulièrement sur l'aspect physique de l'île, pour autant que ce texte permette d'éclairer et d'accompagner le conte d'Aldarion et d'Erendis. Cette description existait certainement en 1965, et elle a probablement été écrite peu de temps auparavant. J'ai redessiné la carte à partir d'un croquis hâtif de mon père, le seul, apparemment, qu'il ait fait de Nouménor. Sur mon dessin figurent uniquement les toponymes et accidents du paysage présents dans l'original. Le croquis de mon père indique un autre port sur la baie d'Andounié, un peu à l'ouest d'Andounié même. Le nom, difficile à lire, est presque certainement Almaïda, nom qui, à ma connaissance, ne se retrouve nulle part ailleurs. 2. Aldarion et Erendis. Ce récit fut laissé sous la forme la plus fruste de tous ceux qui entrent dans ce recueil, et par endroits, il a exigé un travail rédactionnel très poussé, à tel point que j'ai pu m'interroger sur le bien fondé de son inclusion. Toutefois, le conte revêt un intérêt singulier, en tant qu'il est le seul, en dehors des chroniques et annales, qui subsiste concernant Nouménor au cours de sa longue histoire, avant l'épisode de sa submersion, la Calabeth, et en tant que récit unique de par son contenu dans toute l'œuvre de mon père, je me persuadais que ce serait une erreur de l'omettre de ce recueil de contes et légendes inachevés. Pour apprécier la nécessité de ce travail d'édition, on doit savoir que mon père faisait amplement usage, dans la composition de ses récits, de schémas directeurs, où une attention méticuleuse était donnée à la datation des événements, au point que ces schémas font parfois figure d'annales et de chroniques historiques. Dans le cas qui nous occupe, 5 au moins de ces schémas sont à l'œuvre, variant constamment quant à la richesse relative du récit et assez fréquemment se contredisant l'un l'autre, tant sur des particularités d'ordre général que sur des points de détail. Mais ces schémas tendaient toujours à se muer en narration pure, et singulièrement par l'introduction de courts passages au discours direct. Et dans le 5e et dernier schéma, pour Aldarion et Erendis, l'élément narratif prend une ampleur telle que le texte comporte non moins de 60 pages manuscrites. Toutefois, la tendance à abandonner le style saccadé de la chronique au présent pour en venir à une écriture authentiquement narrative ne devait s'affirmer que progressivement et au fur et à mesure que prenaient corps les événements inscrits dans le schéma directeur. J'ai réécrit une part considérable des matériaux qui forment la première partie du récit, m'efforçant de conférer à l'ensemble une certaine homogénéité stylistique. Cette réécriture est question de formulation uniquement. Elle n'infléchit jamais le sens ni n'introduit d'éléments inauthentiques. Le dernier schéma, celui dont le texte procède pour l'essentiel, s'intitule « L'ombre du nombre », le conte de la femme du navigateur, et le conte de la reine bergère. Le manuscrit s'interrompt abruptement, et pourquoi mon père l'a abandonné, je ne puis en donner d'explication certaine. Une dactylographie fut faite en janvier 1965 qui s'arrête au même point. Il existe d'autre part 2 pages dactylographiées que je juge être les matériaux les plus tardifs du récit et qui constituent manifestement le début de ce qui devait être la version définitive de l'histoire, et ces 2 pages ont fourni le texte qui figure dans le présent ouvrage, dont les schémas directeurs sont fort rudimentaires. Ce dernier manuscrit s'intitule « Indis i Ciriamo, la femme du navigateur », un récit de l'ancienne Nouménorée qui raconte la première rumeur de l'ombre. À la fin du récit, j'ai donné les rares indications dont l'on dispose quant au développement ultérieur de l'histoire. 3. La lignée d'Elros, les rois de Nouménor. Bien qu'il ne s'agisse en fait que de simples tables dynastiques, j'ai inclus ce texte parce qu'il constitue un important document pour l'histoire du deuxième âge et qu'une part considérable des matériaux qui subsistent concernant cet âge trouve à s'insérer dans les récits et commentaires du présent recueil. Dans ce manuscrit remarquable, les dates des rois et des reines de Nouménor et celles de leur règne sont abondamment corrigées, non sans quelque obscurité. Je me suis efforcé de retrouver la dernière version. Le texte offre quelques énigmes chronologiques d'ordre mineur, mais il permet aussi de clarifier certaines erreurs apparues dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Pour la lignée d'El Ros, les tables généalogiques des premières générations procèdent de plusieurs tables étroitement apparentées qui couvrent la période de reformulation des lois de succession à Númenor. Il y a quelques variantes minimes portant sur des noms sans importance dans le récit. On trouve ainsi Vardilié et Vardilmé, et de même Yavienne et Yavié. J'ai donné dans la table généalogique la forme que je crois la plus récente. 4. L'histoire de Galadriel et Celeborn. Cette section du livre diffère des autres, sauf de celle qui forme la quatrième partie, pour autant qu'il n'y a pas ici un texte unique, mais plutôt un essai incluant des citations. Ce mode de présentation me fut imposé par la nature même des matériaux. Comme l'atteste le déroulement du texte, l'histoire de Galadriel n'est guère que l'histoire des conceptions fluctuantes de mon père à son sujet, et le côté inachevé du conte n'est pas en l'occurrence celui d'un écrit donné. Je me suis borné à présenter les textes inédits de mon père ayant trait à ce sujet et j'ai renoncé à considérer toutes les questions plus vastes sous-jacentes à ce développement. Car cela m'aurait entraîné à examiner la relation d'ensemble entre les Valar et les Elfes depuis la décision initiale, décrite dans le Silmarillion, de convier les Eldar au Valinor et bien d'autres faits de surcroît sur lesquels mon père a écrit quantité de choses qui n'entrent pas dans le cadre de ce livre. L'histoire de Galadriel et de Celeborn est étroitement imbriquée dans d'autres histoires et récits légendaires. À la Lothlorienne et aux Elfes Sylvains, à Amroth et la Nimrodel, à Celebrimbor et à la création des Anneaux du Pouvoir, à la guerre contre Sauron et à l'intervention Númenoréenne, et cette imbrication est telle qu'on ne pourrait présenter le récit isolément. C'est pourquoi cette section du livre rassemble, avec ses 5 appendices, pratiquement tous les matériaux inédits sur l'histoire du deuxième âge de la Terre du Milieu. Et inévitablement, les dédales du récit nous entraînent par endroits jusqu'au troisième âge. Dans le Conte des Années, appendice B du Seigneur des Anneaux, on lit « Année sombre pour les hommes de la Terre du Milieu, année de gloire pour Númenor. Les événements de la Terre du Milieu ne sont que rarement et brièvement documentés et les dates souvent incertaines. » Mais ce peu qui survécut aux années sombres devait lui-même se modifier, comme changeaient et se développaient les conceptions de mon père. Et je n'ai fait aucun effort pour aplanir les contradictions. Tout au contraire, je les ai dégagées et mises en lumière. Point n'est besoin, en effet, lorsqu'on a affaire à des versions divergentes, de toujours chercher à établir quelle fut la version originale. Et mon père, en tant qu'auteur et créateur, ne se distingue pas toujours dans ce domaine du chroniqueur soucieux seulement de rapporter les traditions anciennes qui se sont perpétuées depuis des temps immémoriaux chez des peuples divers et sous des formes diverses. Lorsque Frodo rencontra Galadriel en Lorienne, plus de 60 siècles s'étaient écoulés depuis son arrivée dans l'Est, par-delà les montagnes bleues, tandis qu'elle fuyait la destruction du Beleriand. De cela, on raconte deux choses, mais laquelle est la vraie? Seuls les sages le pourraient dire, qui à présent s'en sont allés. Au cours des dernières années de sa vie, mon père écrivit énormément sur l'étymologie des noms en Terre du Milieu. Ses essais très discursifs présentent une grande quantité de matériaux historiques et de légendes enchâssées, accessoires à son dessin philologique principal, et qui apparaissent comme cités en passant. Il m'a donc fallu procéder à un travail d'extraction. C'est la raison pour laquelle cette partie du livre est composée dans une large mesure de citations brèves et qu'elle est complétée par des matériaux de même nature dans les appendices. Troisième partie. 1. Le désastre des champs de flambe. Il s'agit là d'un récit tardif, ce qui signifie seulement qu'en l'absence de toute date précise, je le situe dans la période finale des travaux de mon père sur la Terre du Milieu, avec Kirion et Eorl, les batailles des Geats de Lysen, les Druidain et les études philologiques dont les extraits forment l'histoire de Galadriel et Celeborn plutôt qu'à l'époque de l'apparition du Seigneur des Anneaux et des années qui devaient suivre. Il en existe deux versions. Une dactylographie très corrigée de l'ensemble, manifestement un premier jet, et une dactylographie remise au net où ont été incorporés un grand nombre de changements et qui s'interrompt au moment où Elendur incite fortement Isildur à prendre la fuite. Ici, l'éditeur n'a guère eu à intervenir. 2. Kirion et Eorl et l'amitié entre le Gondor et le Rohan. Je tiens ces fragments pour contemporains du désastre des Champs de Flambe, époque à laquelle mon père manifestait un grand intérêt pour l'histoire ancienne du Gondor et du Rohan. Les deux textes étaient certainement destinés à constituer une véritable étude historique, une élaboration des indications succinctes données dans l'appendice A du Seigneur des Anneaux. Il s'agit de matériaux de tout premier jet, très en désordre, comportant de nombreuses variantes et s'achevant en une série de notations hâtives, pour une part illisibles. 3. L'expédition d'Erebor. Dans une lettre écrite en 1964, mon père dit « Il y a bien sûr de nombreux liens entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux qui ne sont pas développés. Ils ont été pour la plupart écrits ou ébauchés, mais ensuite supprimés pour alléger le navire. Ainsi, des explorations de Gandalf, de ses relations avec Aragorn et le Gondor, de tous les déplacements de Gollum jusqu'à ce qu'il vienne se réfugier dans la Moria, etc. En fait, j'ai écrit un récit complet des événements qui ont précédé la visite que Gandalf rend à Bilbo et la fête inattendue qui a suivi, telle que les aperçut Gandalf. Cela était censé prendre place pendant une conversation rétrospective à Minas Tirith. Mais il fallait avancer, et cela n'est présenté que brièvement dans l'appendice A, même s'y sont omis les problèmes que Gandalf a eus avec Thorin. C'est ce récit de Gandalf qu'on lira ici. Les problèmes de l'établissement du texte sont consignés en détail dans l'appendice au récit, où j'ai donné d'importants extraits d'une version antérieure. 4. La quête de l'anneau. Il existe beaucoup d'écrits portant sur les événements de cette année 3018 du Troisième Âge, événements dont on a connaissance par ailleurs à travers le Conte des Années et les rapports de Gandalf et des autres personnages présents au Conseil d'Elrond. Et d'évidence, ces écrits sont les ébauches dont il est question dans la lettre citée à l'instant. Je les ai rassemblés sous le titre de « La quête de l'anneau ». On trouvera dans ce passage une description suffisamment détaillée des manuscrits en eux-mêmes, lesquels sont dans un désordre extrême, ce qui n'a au demeurant rien d'inhabituel. Mais on peut s'interroger ici sur leur date, car je crois volontiers qu'ils appartiennent tous à la même période, y compris ceux intitulés « À propos de Gandalf, de Saruman et du Comté », donnés comme troisième volet de cette section. Ils furent rédigés après la publication du Seigneur des Anneaux, car y figurent des références à la pagination du texte imprimé. Mais les dates qui sont attribuées à certains faits diffèrent de celles données dans le Conte des Années de l'appendice B. D'où l'on conclura qu'ils ont été manifestement écrits après la parution du premier volume, mais avant celle du troisième, qui contient les appendices. 5. Les batailles des Geats de l'Isen. Cet épisode, ainsi que la présentation de l'organisation militaire des Rohirrim, et l'histoire d'Isengard donnée en appendice à ce texte, appartiennent à une série d'études strictement historiques datant d'une époque assez tardive. Ils ne posaient guère de problèmes d'ordre textuel, sinon qu'ils sont inachevés au sens le plus évident du terme. Quatrième partie. 1. Les Druedain. Vers la fin de sa vie, mon père devait en révéler beaucoup plus long sur les hommes sauvages de la forêt de Druadan en Anorien, et sur les statues des hommes Pouk installées le long de la route qui mène à Dunart. Le récit donné ici, où apparaissent les Druedain qui vivaient en Beleriand au premier âge, et où figure le conte de la pierre fidèle, est extrait d'une longue étude discursive et inachevée, portant essentiellement sur les corrélations linguistiques en terre du milieu. Comme nous le verrons, les Druedain devait être ramené à une période historique quasi immémoriale. Mais bien entendu, on ne trouve pas trace de cela dans la version publiée du Silmarillion. 2. Les Istari. Peu après que fut confirmée la publication du Seigneur des Anneaux, on suggéra l'adjonction d'un index au troisième volume et il semble que mon père se soit mis au travail au cours de l'été de 1954, alors que les deux premiers volumes étaient sous presse. Il évoque la question dans une lettre de 1956. Un index des noms propres devait être réalisé, qui, par le biais d'interprétations étymologiques, aurait également fourni un important lexique. J'y ai travaillé pendant des mois, indexant les deux premiers volumes, ce qui a été la cause principale du retard pris par le volume 3, jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement que la longueur et le coût seraient trop importants. En l'occurrence, l'index du Seigneur des Anneaux dut attendre la seconde édition, 1966, mais le brouillon de mon père a été conservé, et j'en ai tiré le plan de mon index pour le Silmarillion, ainsi que la traduction des noms et de brèves notices explicatives. Et aussi, tant pour ce premier index que pour celui du présent ouvrage, certaines traductions et la formulation de certaines définitions. De cette même source provient l'essai sur les Istari, qui ouvre cette partie du livre, une notice fort peu caractéristique, par sa longueur, de l'index original, mais bien caractéristique de la manière dont souvent travaillait mon père. Pour les autres citations dans cette section, j'ai donné dans le cours même du texte toutes les indications de date disponibles. 3. Les Palantiri. En vue de la seconde édition du Seigneur des Anneaux, en 1966, mon père avait considérablement remanié la section qui, dans les deux tours, livre 3, chapitre 11, concerne le Palantir, et il avait corrigé dans le même sens des passages dans le Retour du Roi, 5, 7, le bûcher de Denethor. Toutefois, ces corrections ne devaient être incorporées au texte qu'à la seconde réimpression de l'édition définitive, en 1967. Le chapitre du présent ouvrage procède de divers écrits sur les Palantiri associés à ces révisions. Je n'ai fait que les réunir en un texte d'un seul tenant. La carte de la Terre du Milieu. Ma première intention avait été d'adjoindre à ce recueil la carte qui accompagne le Seigneur des Anneaux en y rajoutant quelques indications toponymiques supplémentaires. Mais à la réflexion, il m'a paru que mieux valait recopier ma carte originale et saisir l'occasion de sa parution pour remédier à quelques-unes de ses insuffisances mineures, porter remède à ses défauts majeurs étant au-delà de mon pouvoir. Aussi l'ai-je redessiné avec la plus grande exactitude possible à une échelle moitié moindre que l'ancienne, moitié moindre donc que celle de la vieille carte telle qu'elle avait été publiée. L'espace couvert est donc réduit, mais les seules indications géographiques omises sont le havre d'Umbar et la baie de Forokel. Et cette réduction d'échelle a permis d'introduire une nouvelle typographie, de plus grand format, qui contribue beaucoup à une meilleure lisibilité. Sur cette carte figurent tous les toponymes importants mentionnés dans le présent ouvrage, mais non pas tous ceux du Seigneur des Anneaux. On trouvera ainsi Londdaer, Drouweth, Ior, Edelond, les Bas-fonds, la Greylin et quelques autres noms que l'on aurait pu ou dû porter sur la carte originale, tels les rivières Arnen et Carnen, mais également Anuminas, Estfold, Westfold et montagne d'Angmar. Une seule indication erronée a été corrigée, celle du Rudaor, remplacée par l'addition du Cardolan et de l'Arthedain, et j'ai pris soin de localiser la petite île d'Himling au large de la côte nord-ouest qui apparaît sur l'une des cartes croquis de mon père et sur ma propre ébauche. Himling est la forme ancienne de Himring, la haute colline où se dressait la forteresse de Maedros, fils de Fëanor, dans le Silmarillion, et bien que le fait ne soit mentionné nulle part ailleurs, il est clair que le sommet d'Himring pointe au-dessus des eaux qui ont recouvert le Beleriand englouti. Un peu plus à l'ouest, affleure une île plus vaste nommée Tolfwyn, en laquelle on doit voir, semble-t-il, la partie non immergée de Tarnufwyn. Dans la plupart des cas, mais non partout, j'ai préféré inscrire le nom Sindarin lorsqu'il était connu, mais j'ai systématiquement donné aussi sa traduction lorsqu'elle était d'usage courant. On notera que le nom « Désolation du Nord », tout en haut de ma carte originale, fut proposé très certainement comme traduction de « Forodweth ». J'ai jugé souhaitable de dessiner sur toute sa longueur la grande route qui relie l'Arnor au Gondor, bien que son tracé entre Edoras et les gués de Lysen soit matière à conjecture, et il en va de même de l'emplacement exact de Londaer et de l'Edelond. Enfin, je souhaite bien souligner que la reproduction minutieuse, et pour le style et pour les détails, hormis quelques points de nomenclature et de typographie, de la carte que j'ai dressée hâtivement il y a 25 ans, ne signifie nullement que sa conception et son exécution présentent des qualités éminentes. J'ai longtemps regretté que mon père ne l'ait pas remplacée par une autre de sa façon. Toujours est-il qu'avec toutes ses imperfections et ses singularités, cette carte est devenue la carte, et mon père lui-même n'a cessé de l'utiliser par la suite, sans se priver de relever fréquemment ses insuffisances. Les différents croquis géographiques qu'il exécuta, et dont ma carte fut l'émanation, font aujourd'hui partie intégrante de l'histoire littéraire du Seigneur des Anneaux. Dès lors, j'ai cru bon, pour ce qui est de ma propre contribution en la matière, de conserver mon dessin original, pour autant qu'il reproduit assez fidèlement, à tout le moins, la structure qui sous-tend les représentations de mon père.